Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le vendredi 15 janvier, il est 7h.
6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
À la une ce matin, à quoi va ressembler la vie sous couvre-feu à 18h? On l'a un peu expérimenté déjà. Le voilà, ce couvre-feu étendu à toute la France pour 15 jours au moins. Que peut-on faire ou pas? Les détails dans un instant. Les écoles, elles, restent ouvertes, mais on va renforcer le protocole sanitaire des cantines. Ça ne convainc pas les parents d'élèves, vous l'entendrez. Enfin, la vaccination s'élargit à partir de lundi aux personnes atteintes de pathologies chroniques, quel que soit leur âge.
Radio Classique.
Le couvre-feu à 18h, Lucille Bréau, peut-être dès le dernier arrêt avant un reconfinement.
Tous à la maison 2 heures plus tôt à partir de demain et pour au moins 15 jours, c'est la principale annonce de Jean Castex hier, ultime carte avant un confinement sans délai si la situation épidémique se dégrade, car on marche bien sur un fil.
Notre situation, je la qualifierais par deux mots, maîtrisée par rapport à ce que l'on observe chez nos voisins, mais fragile, car le virus circule encore activement sur notre territoire.
Plus de 21 000 nouveaux cas ont encore été détectés hier dans notre pays. La France sous cloche donc de 6h du soir à 6h du matin. Qu'est-ce qu'on peut faire ou pas à partir de demain? On voit ça dans le détail avec Victoire Fort.
À 18h, tous les commerces essentiels ou non seront fermés. Même chose pour les agences bancaires, la poste et tous les services publics. Restent les pharmacies et les restaurants qui travaillent pour de la vente à emporter, mais pas possible d'aller chercher votre repas vous-même. Au-delà de 18h, vous pourrez toutefois rentrer de votre travail à votre domicile, promener votre animal, chercher un enfant à la crèche par exemple, mais avec une attestation. Oubliez le jogging du soir, les activités sportives en extérieur sont prohibées de 18h à 6h du matin. Les déplacements en train sont toujours autorisés, le billet de transport est un justificatif valable.
Et le rideau baissé à 18h pour les commerçants, ça change tout.
Oui, dans la grande distribution, un quart des ventes se font après 18h.
Pour les enseignes de l'habillement, en revanche, ce couvre-feu, c'est plutôt un moindre mal à quelques jours des soldes. Écoutez ce qu'en dit Johan Petiot, c'est le directeur général de l'Alliance du Commerce.
Le pire aurait été une décision de fermeture, ça aurait été dramatique parce que nous commençons les soldes la semaine prochaine et les soldes est une période essentielle pour les commerçants. Il faut bien comprendre que c'est pour certains d'entre une période aussi importante que la période des fêtes de Noël. Mais néanmoins, nous redoutions le pire, mais cela ne veut pas dire que ça n'aura pas d'impact sur les commerces, puisqu'on estime que jusqu'à 20% de leur activité peut être réalisée au-delà de 18h. Donc, nous nous attendons à une perte d'activité importante dans les semaines à venir.
Des propos recueillis par Stéphane Genest. La France qui renforce également ses contrôles aux frontières pour lutter contre les variants du virus. 200 à 300 cas du variant anglais sont détectés chaque jour désormais. À partir de lundi, ces tests PCR négatifs obligatoires pour les non-européens qui arrivent par train ou par avion dans notre pays. Ils devront aussi s'engager sur l'honneur à respecter une quarantaine de 7 jours à l'arrivée avec un nouveau test à l'issue.
Dans les écoles aussi, on serre la vis.
Elle reste ouverte mais finit le sport. En intérieur, 1 million d'élèves et d'enseignants vont également être testés tous les mois. Des tests massifs, loin de convaincre l'immunologue Eric Billy.
Vous arrivez dans un lycée et vous testez tout le lycée, vous allez juste identifier les cas positifs à un instant T. Donc il y a ceux qui ne sont pas encore positifs mais déjà contaminés, vous allez les rater. Et ceux en fait qui sont positifs, vous en faites quoi en fait? Si on veut vraiment casser l'épidémie, c'est de le mettre dans un hôtel, dans une chambre pour l'isoler en fait. Parce que s'il rentre à la maison et qu'il dort avec sa sœur dans sa chambre, il va falloir éviter que l'enfant transmette à ses parents. Il y a toute une procédure derrière à mettre en place qui est loin d'être simple. Faire les tests, c'est bien. Mais en fait, ce qui est mieux pour pouvoir garder le contrôle du virus, c'est de maîtriser le devenir des personnes qui ont été contaminées.
Les écoles où le protocole sanitaire va également être renforcé dans les cantines, avec une pause déjeuner plus longue et pourquoi pas des repas à emporter en dernier recours. De la poudre aux yeux pour Rodrigo Arenas de la FCPE.
La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on organise le respect des gestes barrières sur l'ensemble du temps scolaire? Parce que le vrai protocole existe depuis le mois de juillet et il n'est toujours pas appliqué. Si les enfants ne vont plus à la cantine et qu'ils font du brassage de virus à l'extérieur, soit devant des fast-foods ou alors parce qu'ils se regroupent chez les uns chez les autres, la question reste entière. Donc la raison, ce n'est pas de déplacer le problème, c'est de mettre les moyens dans les écoles pour que ces gestes barrières soient respectés et en particulier pour les collectivités territoriales qui en ont la charge.
Dans les universités, on desserre par contre légèrement les taux pour les étudiants de première année, les travaux dirigés pourront reprendre en présentiel à partir du 25 janvier, mais seulement en demi-groupe. Jean Castex reçoit ce matin les représentants de la communauté éducative pour en parler.
Et puis la vaccination, elle s'élargit.
C'est la priorité des priorités pour le Premier ministre pour sortir de la crise. Dès lundi, les personnes souffrant de pathologies à haut risque d'un cancer, par exemple, pourront recevoir la fameuse première dose, quel que soit leur âge, dans plus de 700 centres dédiés. Le site santé.fr sera, lui, finalement accessible dans une heure pour s'inscrire après un gros bug hier lié à trop de connexions. Pareil pour les plateformes Doctolib, Maya ou Keldoc. Un numéro vert entre aussi en service aujourd'hui, le 0800 009 110. Je répète, 0800 009 110. Chez nos voisins aussi, on durcit le ton face au Covid. En Allemagne, Angela Merkel plaide désormais pour des restrictions renforcées. 2 millions de cas du virus ont désormais été enregistrés là-bas. Le Portugal, lui, se reconfine aujourd'hui pour au moins un mois.
7h06 dans le reste de l'actualité, un plan de relance titanesque aux États-Unis.
Pour sortir le pays de sa pire crise depuis les années 30, il a été dévoilé par Joe Biden cette nuit, son montant 1900 milliards de dollars, bientôt suivi d'un plan d'investissement pour relancer l'économie. En Indonésie, plusieurs dizaines de personnes sont prisonnières des décombres d'un hôpital sur l'île des Célèbes. Il s'est effondré après un séisme de magnitude 6,2 sur l'échelle de Richter, séisme qui a fait au moins 26 morts. Chez nous, en France, un mois après la disparition de Delphine Jubillard, un nouvel élément troublant redonne de l'espoir à sa famille. Son compte Facebook s'est mystérieusement activé mercredi soir. Un message vide a été posté sur un groupe dont sa mère est membre avant d'être supprimé. Et puis les handballeurs français impériaux, hier, ils ont parfaitement lancé leur mondial en Égypte en battant la Norvège, vice-championne du monde, victoire 28-24.
Merci Lucille Bréau. Vous revenez tout à l'heure pour le journal de 8h. Dans un instant sur Radio Classique, le rappel des titres de l'économie. L'édito Écho de François Vidal, on va parler ce matin de la Chine. Et puis notre invité ce matin, il sera question des mesures de soutien à l'économie française, en tout cas du côté du secteur bancaire, avec Philippe Brassac.